Si vous passiez par Nice cet été, vous avez peut-être pu aller visiter l'exposition qui s'est tenue au musée Matisse, une exposition au titre très évocateur, Henri Matisse, la musique à l'œuvre. Et ça nous a donné l'idée d'aller nous promener dans les archives sonores de Matisse, à l'INA, avec cette question, comment parler musique lorsqu'on est peintre? Rien de plus simple peut-être, il suffit de parler couleurs, de ses rythmes, de ses thèmes, de ses variations, de ses harmonies. Henri Matisse, en 1951.
Voyez-vous, j'ai cherché mon harmonie et mon équilibre, ma sympathie entre les choses, par les épaisseurs, qui ne sont pas les mêmes. Alors il y a une espèce d'unité qui vient d'une commune mesure, de rapprochement de mesure, et en même temps une diversité qui vient par la largeur des choses. C'est ça, un côté, c'est une chose un peu originale.
Le critique d'art Pierre Schneider.
Ce qui compte avant tout pour Matisse, c'est l'émotion, n'est-ce pas? C'est l'émotion qu'il a ressentie devant l'objet. C'est elle qu'il peint, je vous disais, et pas l'objet lui-même. Et puis, communiquer l'émotion au spectateur. Parce que la couleur est le véhicule privilégié de l'émotion, Matisse a fait de la couleur, en quelque sorte, la pierre angulaire de ce que je n'ose pas appeler son système, puisqu'il était le plus anti-systématique de tous les peintres.
Et plus encore que la couleur, les rapports des couleurs.
Oui, pour les autres fauves, la couleur, c'était une espèce de parure de fête mise sur une image assez traditionnelle, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on voyait comme tout le monde, mais qu'on coloriait plus vif. Ce qui compte pour lui, ce n'est pas la couleur, mais le rapport entre des couleurs. Il le dit d'ailleurs, une couleur, ce n'est rien, deux couleurs, c'est un rapport, c'est la vie. Et c'est la vie qui comptait pour lui. Et prenez par exemple l'admirable Dessert rouge ou la musique et la danse de Leningrad, qui sont à Matisse ce que les Demoiselles d'Avignon sont à Picasso et qui sont véritablement les monuments de la peinture du XXe siècle à son début. Eh bien, ces œuvres qui sont la richesse même du point de vue émotif, qui disent tout ce qu'elles ont à dire, elles le disent, je vous disais, avec trois couleurs, le rouge le plus rouge, le bleu le plus bleu, le vert le plus vert.
La fin du prélude de la sonate pour flûte, alto et harpe de Claude Debussy, musicien coloriste s'il en est, contemporain de Matisse, et c'était la belle flûte de Sophie Cherrier avec l'altiste Nicolas Beaune et la harpiste Frédéric Cambrelin. Voici donc Henri Matisse ce soir, hôte des greniers de la mémoire, où il ne sera finalement pas tellement question de la musique comme thème iconographique récurrent pourtant chez Matisse, qui joue du violon quotidiennement et croque dans de nombreuses toiles ses enfants dans le salon familial, Pierre au violon, Jean au violoncelle ou Marguerite au piano. Et de toute façon, la musique est très présente chez les peintres de cette époque. Elle est l'art non discursif et non représentatif par excellence et sert donc de modèle à la peinture. Il y a donc, comme chez Braque, le violon central dans les toiles de Matisse. Il y a aussi d'autres instruments comme l'harmonium. Mais plus encore, c'est la musique comme métaphore qui va nous intéresser ce soir, avec aussi le geste du musicien, si important pour Matisse, ce geste du musicien précis comme doit l'être celui du dessinateur. Et ce jeu subtil de correspondance, Matisse va l'exprimer dans un texte splendide que va nous lire le comédien Laurent Poitrenaud, Rôle et modalité de la couleur.
Dire que la couleur est redevenue expressive, c'est faire son histoire. Pendant longtemps, elle ne fut qu'un complément du dessin. Raphaël, Mantegna ou Durer, comme tous les peintres de la Renaissance, construisent par le dessin et ajoutent ensuite la couleur locale. Au contraire, les primitifs italiens et surtout les orientaux avaient fait de la couleur un moyen d'expression. L'on eut quelques raisons de baptiser Ingres un chinois ignoré à Paris, puisque le premier, il va utiliser les couleurs franches, les limiter sans les dénaturer. De Delacroix à Van Gogh, et principalement à Gauguin, en passant par les impressionnistes qui font du déblaiement, et par Cézanne qui donne l'impulsion définitive et introduit les volumes colorés, on peut suivre cette réhabilitation du rôle de la couleur, la restitution de son pouvoir émotif. Les couleurs ont une beauté propre qu'il s'agit de préserver, comme en musique on cherche à conserver les timbres. Question d'organisation, de construction, susceptible de ne pas altérer cette belle fraîcheur de la couleur. Les exemples ne manquaient pas. Nous avions devant nous non seulement des peintres, mais aussi l'art populaire et les crépons japonais que l'on vendait alors. Le fauvisme fut ainsi pour moi l'épreuve des moyens. Placé côte à côte, assembler d'une façon expressive et constructive un bleu, un rouge, un vert. C'était le résultat d'une nécessité qui se faisait jour en moi, et non d'une attitude volontaire, une déduction ou un raisonnement dont la peinture n'a que faire. Ce qui compte le plus dans la couleur, ce sont les rapports. Grâce à eux, et à eux seuls, un dessin peut être intensément coloré sans qu'il soit besoin d'y mettre de la couleur. Sans doute, il existe mille façons de travailler la couleur, mais quand on la compose, comme le musicien avec ses harmonies, il s'agit simplement de faire valoir des différences. Certes, la musique et la couleur n'ont rien de commun, mais elles suivent des voies parallèles. Sept notes, avec de légères modifications, suffisent à écrire n'importe quelle partition. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour la plastique ? La couleur n'est jamais une question de quantité, mais de choix. À leur début, les ballets russes, et particulièrement Scheherazade de Bakst, regorgeaient de couleurs, profusion sans mesure. On eût dit qu'elle avait été jetée au baquet. L'ensemble était gai par la matière, non par l'organisation. Cependant, les ballets ont facilité l'emploi des moyens nouveaux dont ils ont eux-mêmes très largement bénéficié. Une avalanche de couleurs reste sans force. La couleur n'atteint sa pleine expression que lorsqu'elle est organisée, lorsqu'elle correspond à l'intensité de l'émotion de l'artiste. Dans le dessin, même formé d'un seul trait, on peut donner une infinité de nuances à chaque partie qui l'enclôt. La proportion joue un rôle primordial. Il n'est pas possible de séparer dessin et couleur, puisque celle-ci n'est jamais appliquée à l'aventure. Du moment qu'il y a des limites et surtout des proportions, il y a scission. C'est là où intervient la création et la personnalité du peintre. Appelée et nourrie par la matière, recréée par l'esprit, la couleur pourra traduire l'essence de chaque chose et répondre en même temps à l'intensité du choc émotif. Mais dessin et couleur ne sont qu'une suggestion. Par illusion, ils doivent provoquer chez le spectateur la possession des choses. mais c'est dans la mesure où l'artiste est capable de se suggestionner et de faire passer sa suggestion dans son œuvre et dans l'esprit du spectateur. Un vieux proverbe chinois ne dit-il pas « Quand on dessine un arbre, on doit, au fur et à mesure, sentir qu'on s'élève. »
Stravinsky, le sacre du printemps, la danse sacrale, et c'était Pierre Boulez à la baguette. Ce sacre créé en 1913, on le retrouve dans une toile peinte par Matisse à la veille de la guerre, une toile qui prendra pour titre Les Demoiselles à la rivière, blocs de couleurs qui font songer aux blocs sonores du sacrifice du second acte du sacre. On évoquera tout à l'heure d'ailleurs la collaboration de Matisse avec Stravinsky pour le chant du Rossignol, mais je vous propose d'écouter tout d'abord Pierre Boulez qui tisse un fil entre Matisse et Anton Webern, Webern qui, comme Schoenberg avant lui, a privilégié le timbre comme élément central de la composition avec ce jeu de combinaisons de sonorités aux timbres variés qu'on définit en allemand par le terme de Klangfarbenmelodie, lui-même une combinaison de trois mots allemands. Der Klang, le son, die Farben, les couleurs, et die Melodie, la mélodie. Soit une mélodie de couleur sonore ou une mélodie de timbre ou de couleur. Voici donc Pierre Boulez, il était au micro de Jean-Pierre Derrien et c'était en novembre 1980 sur France Musique.
Au début de Webern, il y a vraiment cette réciprocité immédiate de la pensée et de l'écriture, cette pensée qui ne peut pas se concevoir sans l'écriture et l'écriture qui ne peut pas exister, si vous voulez, sans la pensée. Tandis que plus tard, la pensée existe pour elle-même, on peut l'isoler pratiquement et on peut voir comment il a eu recours, si vous voulez, à des couleurs pour l'expliciter. Cela me fait penser à certaines esquisses de Matisse que j'avais vues où Matisse dessine des formes et à l'intérieur de ces formes, il met simplement, pour la préparation du tableau, bleu, vert. Et cela implique une extrême sûreté de moyens ou un extrême détachement. Et je pense que dans le cas de Webern, en effet, il y a eu, comme dans le cas de Matisse, il y a eu cet extrême détachement de la coïncidence des événements, en même temps qu'il y a eu une extrême sûreté de la prévision de ce qu'il voulait faire. À un moment donné, il ne voulait plus se laisser déranger par l'intrusion de la réalité dans la pensée, mais il pensait que la réalité pouvait très bien attendre que la pensée se soit formulée avant d'exister.
Pierre Boulez dirigeait l'ensemble intercontemporain dans les 5 pièces pour orchestre, opus 10 d'Anton Webern, ses petits haïkus comme les définit Boulez. Ici, nous écoutions les 3 premières pièces. Vous l'entendez, Webern compose par timbre, comme l'a théorisé d'ailleurs Schoenberg 2 ans avant dans son traité d'harmonie, dont je vous lis un extrait. Moi, je trouve ce texte assez génial. Je ne puis admettre sans réserve la différence que l'on a coutume d'établir entre couleur sonore, timbre, et hauteur sonore. C'est en effet par sa couleur sonore, dont une dimension est la hauteur, que le son se signale. La couleur du son est donc le grand territoire dont une région est constituée par la hauteur du son. Cette dernière n'est rien d'autre que la couleur du son mesurée dans une direction. S'il est possible maintenant, à partir de timbres différenciés par la hauteur, de faire naître des figures sonores que l'on nomme mélodies, succession de sons dont la cohérence même suscite l'effet d'une idée, alors il doit être possible, à partir de pures couleurs sonores, les timbres, de produire ainsi des successions de sons dont le rapport entre eux agit avec une logique en tout point équivalente à celle qui suffit à notre plaisir dans une simple mélodie de hauteur. Fin de citation. Alors, comme pour Schoenberg, mais en peintre cette fois, Matisse tisse un jeu subtil de correspondance entre la couleur et la sonorité, car pour lui, il y a bien une sonorité de la couleur. Écoutons justement le peintre, c'était en 1950, il évoquait à la radio les panneaux décoratifs qu'il avait réalisés en 1909 pour le collectionneur russe Tchoukine, la danse et la musique. Ces tableaux qui comptent parmi les œuvres les plus célèbres de l'artiste, inspirés d'une farandole vue au Moulin de la Galette à Paris, une farandole qui inspirera d'ailleurs également les costumes et le décor d'un ballet réalisé pour Léonide Massé, L'étrange farandole, le titre deviendra plus tard Rouge et Noir, un ballet sur la première symphonie de Shostakovich. Voici donc Henri Matisse.
J'aime beaucoup la danse. Je trouve que la danse est une chose extraordinaire comme vie, comme rythme. Et c'est tout à fait, je trouve ça très bien et je vis dedans très, très facilement. Si bien que quand j'ai eu à faire une danse pour Moscou, j'ai simplement été au Moulin de la Galette le dimanche après-midi. Et j'ai regardé danser, j'ai regardé notamment la farandole, souvent vers la fin de la séance, ou au milieu, il y avait une farandole. Alors cette farandole est une chose très gaie, les danseurs se tiennent par la main, courent à travers la salle, entortillent les gens qui sont un peu égarés, c'est extrêmement gai. Et alors tout ça était sur une musique toute simple, une musique sautillante. Et alors, je connaissais bien cette chose-là. Et quand j'ai eu à faire une composition, je suis retourné au Moulin de la Galette pour revoir ça. Alors, rentré chez moi, j'ai composé ma danse ma surface de 4 mètres et en chantant le même air que j'avais entendu au Moulin de la Galette. Si bien que toutes mes compositions, tous mes danseurs sont d'accord. Et ils dansent, n'est-ce pas, sur le même rythme. Voilà une première chose.
Est-ce que l'idée d'employer le thème de la danse existait avant la décoration, avant la peinture murale, ou est-ce au contraire la surface et la forme de la surface qui vous a suggéré le thème?
Non, c'est que j'aime particulièrement la danse, que je vis davantage dans la danse que dans n'importe quelle composition. C'est mouvementé, c'est expressif, c'est rythmique, ça correspond à une musique que j'aime bien, la musique que j'aime bien. C'était particulièrement en moi, cette danse. Je n'ai pas eu besoin de me chauffer, seulement j'ai marché sur des éléments vivants. Il y a 2 façons de comprendre les choses. Vous pouvez voir d'une façon statique une danse, parce que ça dépend si vous la voyez dans l'esprit, si vous la composez comme ça, ou si vous la composez physiquement en dansant avec vos membres. La statique n'empêche pas du tout le sentiment du mouvement, mais c'est un mouvement qui est placé à un degré d'élévation qui n'entraîne pas les muscles des spectateurs, mais simplement leur esprit.
Thank you.
La première symphonie de Chostakovitch, le deuxième mouvement Allegro, et c'était Valéry Gergiev qui dirigeait l'orchestre du théâtre du Mariinsky. Cette symphonie de Chostakovitch accompagnait le ballet symphonique Rouge et Noir, créé en 1937 par les ballets russes de Monte-Carlo. Matisse avait ici collaboré avec Léonide Massine, il avait réalisé le rideau du ballet, ainsi que les costumes. J'avais un fond divisé en quatre couleurs, bleu, rouge, noir et jaune, avec des arceaux blancs. J'habillais mes danseurs des couleurs du décor avec des maillots bleus, rouges, jaunes et blancs, a précisé Matisse. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que le peintre a collaboré à un ballet. En effet, en 1920, il a réalisé les décors et les costumes pour le ballet Le Chant du Rossignol sur la musique de Stravinsky, commandé par Diaghilev pour les ballets russes. On écoutait Matisse d'ailleurs tout à l'heure évoquer son goût pour la danse lors de sa collaboration avec Stravinsky et Massine. Eh bien, il avait appris, je le cite, ce que pouvait être des couleurs se déplaçant avec des costumes. Les couleurs se déplacent et doivent tout de même laisser la même impression au décor. Une autre grande œuvre de Matisse est inspirée de la danse. Cette fois, c'est la fresque monumentale qu'il a réalisée pour le docteur Barnes, le collectionneur de Philadelphie, qui lui avait proposé de réaliser une décoration pour la galerie principale de sa fondation. Commencé à Nice en 1931, ce grand panneau en trois arches était achevé en 1933. Matisse pensait ici avoir atteint son but, créer une musique de couleurs.
C'est à Merion, près de Philadelphie, qui a la fondation Barnes. Alors là, j'ai refait tout un plafond, c'est-à-dire, oui, un plafond. C'était ce qu'on appelle en architecture des lunettes dans un plafond, n'est-ce pas, des espèces de voussures. Eh bien, alors, j'ai mis mes personnages, je les ai fait beaucoup plus grands qu'en réalité, n'est-ce pas, que supporter les surfaces, si bien qu'il y a la moitié d'un corps, on voit la moitié d'un corps qui sort du haut, un autre dans le bas est couché. Donc, j'ai donné enfin à cette surface qui était pas extrêmement grande, qui n'avait que 13 mètres, j'ai donné la possibilité d'y voir une danse beaucoup, beaucoup plus grande parce que je me suis servi de fragments. Le grand point à observer était que cette décoration était placée dans une salle immense dans laquelle il y avait les plus beaux Renoir, les plus beaux Cézanne, les Seurat extraordinaires, et je ne pouvais pas, je ne prétendais pas et je ne devais pas lutter avec ces peintures. Alors j'ai dû prendre une gamme de couleurs qui était aérienne, un peu une peinture de plafond. Et puis alors éviter des couleurs comme le vert, c'est vrai. Mais en même temps, j'ai pris des grands contrastes noirs correspondant aux entre-portes. Et alors des compartiments roses, des compartiments bleus, des compartiments de diverses couleurs, de façon à créer une musique de couleurs qui n'avait rien de particulier avec la réalité, rien que mon émotion qui était d'accord avec la danse.
Le critique d'art Marcelin Plenet évoque l'importance de la danse dans l'œuvre de Matisse.
Matisse est un des rares artistes dont l'œuvre se joue comme un ensemble dont les diverses parties ne cessent de se répondre. Et l'un des réponses constantes de l'œuvre, c'est la danse. Ça, c'est une des particularités de Matisse. Alors on a donc la danse de 1909 qui sort de la joie de vivre. On a ensuite toutes les natures mortes, avec ou sans fleurs, à la danse. Et on va avoir au moment où Matisse fait son premier voyage aux États-Unis et où il rencontre le docteur Barnes qui lui demande une décoration pour la maison qu'il a près de Philadelphie.
En 1930,
on va avoir à ce moment-là Matisse revenant très déclarativement et à une échelle encore plus monumentale sur ce thème de la danse.
La fin du chant du Rossignol d'Igor Stravinsky par l'Orchestre Philharmonique de Vienne, placé sous la direction de Laurine Mazel. Vous écoutiez le jeu du Rossignol mécanique et feu d'artifice. Ce chant du Rossignol, ballet de Léonide Macide, créé en 1920 pour les ballets russes de Diaghilev, et pour lequel donc Henri Matisse va concevoir les décors et les costumes. Il confiera que cette musique de Stravinsky, inspirée par une Chine imaginaire, avait été une révélation pour lui. J'ai appris ce que pouvaient être des couleurs se déplaçant avec des costumes. Les couleurs se déplacent et doivent tout de même laisser la même impression au décor. Donc toujours ici, on le voit bien, on l'entend, ce thème du mouvement, de la couleur, ce véhicule de l'émotion avec cette mise en tension entre la couleur, la palette de couleurs du peintre, et le timbre pour le musicien, cette couleur sonore qui inspirera tant de toiles à Henri Matisse.